Prions, s'il vous plaît. Notre Père céleste, nous te rendons grâce ce matin, ta fidélité, ta bonté. Puisses-tu diriger, Seigneur, toi-même, l'enseignement de ta parole et que nos cœurs puissent en être sensibles et puis en être ouverts, car ta parole est une lumière sur notre sentier. Elle est un marteau qui brise le roc, une épée à double tranchant. Et merci, Seigneur, de ce qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli ses desseins. Gloire à ton nom. Amen. En fait, cette année, le Seigneur nous a dirigés pour avoir comme thème dans notre assemblée ce leitmotiv, connaître Jésus-Christ et le faire connaître. Qu'est-ce qui est plus beau que connaître Jésus-Christ et le faire connaître? Et on étudie l'évangile de Jean, notamment dans les groupes de maisons. Nous avons 5 groupes de maisons dispersés dans la ville pour étudier l'évangile de Jean et nous nous réjouissons de cela. Nous avons déjà regardé ensemble ici, par la grâce de Dieu, les 7 « je suis » que Jésus déclare dans l'évangile de Jean et les 7 miracles. Et nous avons regardé les 7 miracles l'un après l'autre fidèlement et voir ce que le Seigneur a à nous apprendre de lui, et puis de le glorifier. En fait, toutes ces études ou ces messages ont pour but ce que dit finalement Jean lui-même, comme étant le but de l'évangile de Jean. Ça se trouve en Jean, chapitre 20, versets 30 et 31. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles, qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous avez la vie en son nom. Alors l'évangile s'adresse à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, quelque part. Mais bien sûr, pour nous qui sommes croyants, qui avons donné notre cœur au Seigneur Jésus-Christ, ce sont les mêmes principes spirituels, finalement, qui doivent nous diriger. Le titre de mon message ce matin est le suivant. Jésus s'est révélé aux hommes en comblant leurs besoins. Et on va regarder les 7 miracles. Oh là là, c'est ambitieux ce matin. Hein? Priez pour moi. Et je prie pour vous que soyez attentifs. On va regarder les 7 miracles, bien sûr, en résumé, sachant qu'on les a vus en détail, dimanche après dimanche. Mais on va regarder les 7 miracles avec ce regard. Jésus désire se révéler aux hommes en comblant leurs besoins. En fait, il y a un dénominateur commun à chaque miracle. Jésus révèle sa divinité en faisant un miracle pour combler un besoin particulier ou intervenir dans une situation particulière de la vie des gens. Dieu s'intéresse aux hommes. Savez-vous que Dieu vous aime? Dieu vous connaît? Dieu sait ce dont vous avez besoin. Oui, nous avons aujourd'hui, n'est-ce pas, les mêmes besoins. Nous avons des besoins matériels face à la vie courante. Nous avons des besoins physiques face à la maladie, à la souffrance et la grande interrogation, la mort. Nous avons des besoins spirituels face à un monde inculte, face aux difficultés de la vie et face à l'éternité. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous avons tous ces besoins pour lesquels Jésus est prêt à se manifester. Et nous allons jeter un regard ce matin par rapport aux 7 miracles que Jésus a accomplis dans l'évangile de Jean, que l'évangéliste Jean a choisi, afin de mieux connaître Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons besoin de sa révélation. Nous aussi, nous avons besoin de son intervention divine dans nos cœurs, et je dirais même à chaque jour. Alors, on va regarder tout d'abord en Jean chapitre 2. Alors, nous allons aller assez rapidement, parce que nous sommes censés, au moins pour la plupart, n'est-ce pas, connaître, avoir vu ces miracles les uns après les autres. On va regarder comme cela. On va établir le besoin, où je vais le mentionner. On va voir comment Jésus est intervenu, comment l'appliquer à nos vies, et ensuite, comment exercer notre foi. En fait, le fil conducteur de ce matin, cela va être comment exercer notre foi. Est-ce qu'il y a différents types de foi pour connaître Jésus-Christ et le faire connaître? Alors, on est au premier miracle de Jésus à Cana. Il est écrit au chapitre 2, verset 1, « Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée, la mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. » Le premier miracle de Jésus, ça va être de transformer l'eau en vin. Le besoin, c'est qu'il y ait un manque de vin. Vous dites, mais c'est si important que ça que Jésus ait changé l'eau en vin pour combler ce besoin. En fait, Jésus, lorsqu'il intervient, il intervient évidemment de façon exceptionnelle. D'ailleurs, je pense que ce vin a eu le label divin comme étant un des meilleurs vins au monde. Hein. C'est le vin que Jésus lui-même a créé sur la terre, lui-même. D'ailleurs, ils ont découvert que le vin était meilleur, celui de Jésus, que l'autre précédent. Et puis Jésus a donné en abondance une grande quantité de vin. Et puis, il a manifesté sa gloire, c'est le but de son intervention. En fait, comment l'appliquer dans nos vies? C'est que nous avons aussi besoin de voir Dieu combler nos besoins matériels. La vie est faite de toutes sortes de choses et nous ne pouvons pas faire l'autruche et nier que, ben voilà, faut faire ça face à la vie, aux factures, aux besoins, dans le travail, tous les défis que nous avons. Mais Jésus est prêt à intervenir à tout moment de notre vie et même, j'ajouterai, dans les moments de fête. Jésus n'est pas contre la fête quand elle est bien faite. Jésus n'est pas contre le fait que ses enfants se réjouissent, même le jour de Noël ou la naissance de Noël, fêtant Noël, mais avec joie, avec abondance, parce que Dieu est un Dieu de toute abondance, il a tout donné en son Fils. En fait, nous devons retenir, qu'est-ce que nous devons retenir de cette histoire de miracle de l'eau transformée en vin? Premièrement, Jésus compatit aux besoins des hommes, et même aux besoins des matériels. Il est celui qui veut pourvoir à tous nos besoins. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins en Jésus-Christ. C'est quelque chose là. Vous avez déjà eu des difficultés à penser comment vous allez manger. Et vous vous êtes dit, mais là, je pense que je dois sauter un repas ou peut-être même plusieurs repas. Puis là, Dieu a comblé votre besoin. Et là, vous vous êtes réjoui. Vous savez, c'est plus facile de louer le Seigneur quand le frigo est plein que quand il est vide. Et pourtant, Dieu veut qu'on se réjouisse de chaque chose. Et il est prêt à pourvoir à tous nos besoins. Puis là, il est venu au secours d'un marié bien embarrassé. Il n'y avait plus de vin, c'était la fête. Et Jésus intervient, puis il donne réellement en abondance. Jésus n'est pas contre le plaisir, une certaine vie sociale, mais avec la bonne attitude, dans ce cas, sans excès de vin, bien sûr. Dieu ne nous défend pas de jouir avec mesure des biens qu'il nous a lui-même donnés, mais Jésus apporte la joie, la générosité. Imaginez, il a transformé 450 litres d'eau en vin. Quel beau cadeau de noces. Et ce que je veux dire ici, c'est que Dieu donne généreusement, abondamment, et ce qu'il y a de meilleur, c'est donc le label divin de qualité. Et nous devons apprendre à nous réjouir des petites choses comme des grandes choses, et le louer de façon permanente, nous qui pouvons manger et nous couvrir et être rassasiés tous les jours, on ne se rend pas compte. Et même lorsque Dieu donne l'abondance, ben soyons, comme disait l'apôtre Paul, prêts à savoir vivre dans la disette comme dans l'abondance. L'abondance n'est pas un péché quand elle est bien utilisée à dessein à la gloire de Dieu. Comment les gens ont-ils été exercés ici dans leur foi? Mais ils ont cru, parce que Marie a cru, les serviteurs ont cru, ils ont fait exactement ce que Jésus leur a demandé de faire. Le miracle s'est accompli, puis ils ont vu. Donc des fois, Dieu demande de croire, et ensuite on voit. Croire, et puis voir. Ça va? On continue. Deuxième miracle, c'est au chapitre 4, un petit peu plus loin, après que Jésus ait rencontré la femme samaritaine. Il y a un officier du roi dont le fils est malade et certainement une maladie qui semble l'amener jusqu'à la mort. C'est un père qui aime son enfant, qui voit son enfant malade, malade jusqu'à la mort et qui est désespéré et qui dans son désespoir court vers Jésus. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, chapitre 4, verset 47, il alla vers lui. Et il le pria de descendre et de guérir son fils qui était prêt de mourir. Cet homme a fait un pas de foi. Il est allé vers Jésus. Il semblait que c'était la seule solution. Et Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez pas. Autrement dit, est-ce que tu viens vers moi pour faire un miracle? Pourquoi? Parce que tu vas voir? Et l'officier du roi lui répondit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Quel cri, n'est-ce pas? Et parfois, Dieu peut permettre dans notre vie qu'on ait des situations, une maladie d'un être cher, d'un enfant, d'un père, d'une mère, soi-même. Et le seul recours qu'on a, c'est la prière, c'est de se tourner vers Jésus. Cet officier n'a pas eu honte, loin de là. Il est allé vers Jésus, puis il a supplié Jésus de faire quelque chose. « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Quelle déclaration, quelle belle parole. « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Quel apaisement pour cet homme-là. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Et il s'en alla. Il ne sait pas encore. Il n'a pas encore appris que son fils a été guéri. Et c'est prouvé par la suite dans le texte que c'est au moment où Jésus a dit cela que les serviteurs ont dit que le fils avait été guéri. C'est merveilleux cela. Jésus a guéri. Et son but, c'est qu'on croit en lui, qu'on n'ait pas de doute que Dieu peut tout faire. Vous êtes dans une situation désespérée, voire de souffrance et de maladie, parce que c'est le contexte ici du texte, mais Jésus peut intervenir. Mais il nous demande de croire, parfois sans voir encore, sans voir. Nous devons apprendre dans nos vies à être prêts à demander secours au Seigneur face à la maladie, la nôtre ou celle des autres. Nous devons croire à la parole de Jésus, à l'exemple de cet officier, du roi. Parce que Jésus est quelqu'un qui veut se rapprocher de nous dans les bons moments, comme dans les moments difficiles, dans les moments de fête, comme dans les moments de désespoir. Et il écoute la prière d'un père désespéré. Il écoute la prière d'un cœur désespéré. Parce que c'est un cœur sincère, qui a les yeux fixés sur Jésus, qui est capable de faire quelque chose. Et puis Jésus désire qu'on se confie en lui, en sa parole, qu'on ne doute pas. Notre foi ne doit pas dépendre des miracles qu'il peut accomplir, mais de lui-même. Nos yeux doivent rester fixés sur celui qui fait les miracles. C'est le but de notre relation avec Dieu, le glorifier, avoir la foi en lui. Avez-vous foi en lui? Ah, je crois que le Seigneur travaille parfois dans nos cœurs, dans des période particulière et nous reproche parfois le manque de foi. Est-ce que nous osons croire que Dieu peut intervenir de façon miraculeuse, pas parce que nous voulons voir des miracles, mais parce que nos yeux sont fixés sur celui qui fait les miracles. Vous savez, Jean-Baptiste, celui qui est connu comme étant le plus grand des prophètes, c'est ce que Jésus a déclaré. Combien de miracles a-t-il fait? Aucun. Si ce n'est d'avoir fidèlement prêché la venue de Jésus-Christ. Ses yeux étaient fixés sur Jésus. Nous ne devons pas rechercher des miracles, mais Jésus lui-même. Qui peut faire des miracles et de façon extraordinaire? Dans un domaine parfois de détresse, de désespoir, nous devons tout simplement croire sans voir. Au début, dans les noces de Cana, ils ont cru puis ils ont vu. Là, l'officier du roi, il a cru sans voir. Puis ensuite, il a vu. Vous savez, la foi, c'est quelque chose de très précieux. Comment vivons-nous par la foi? Croire et puis voir, croire sans voir. Troisième exemple, c'est Jean chapitre 5. C'est ce que nous avons vu dans notre groupe de maison, vendredi soir dernier, avec Johan qui l'enseignait. Voilà, un homme se tient dans un portique, d'une piscine, à la porte des brebis, qui s'appelle en hébreu Bethsaida, chapitre 5, Jean chapitre 5. Il est écrit sous ces portiques, étaient couchés, verset 3, un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, il l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Une longue maladie, 38 ans, un cas désespéré, un homme qui s'est tenu là et qui voulait absolument guérir, mais la guérison tardait. Et cet homme désespéré. Et c'est pour ça que Jésus est obligé de ranimer sa volonté de guérir. En quelque sorte, il dit, veux-tu être guéri? Mais ça fait des années qu'il est malade. Si on est malade, qu'est-ce qu'on veut? Mais c'est guérir. À moins qu'on soit tellement déprimé, désespéré, sous la souffrance et la maladie, qu'on décide finalement, bon, la maladie, je dois la subir. Parfois, Dieu permet qu'un croyant souffre et soit malade et ne le guérit pas. C'est vrai. Mais cet homme-là avait quand même toujours un certain espoir de guérison. Il avait la foi, mais pas les moyens. Il ne pouvait pas lui-même aller dans cette piscine, se jeter. Les autres arrivaient avant lui, personne ne prenait soin de lui. Et cet homme était paralytique déjà, paralysé déjà, mais il ne pouvait pas bouger. Il n'avait pas les moyens d'exercer sa foi, en quelque sorte, d'être capable de se jeter dans cette eau pour être guéri. Cet homme pouvait être bien frustré, bien découragé. Une souffrance longue, tenace, depuis des années. J'aimerais dire ceci, c'est que le but de cette histoire nous montre que Jésus a compassion de ceux qui souffrent. Jésus a la puissance de guérir. Jésus ne joue pas avec nous. Jésus est tout puissant, il est prêt à guérir. Et parfois nous devons apprendre à persévérer dans notre démarche de foi. Croire à l'intervention de Dieu, même si on le désespère, notre situation. Vous n'avez pas vécu une situation où vous demandez, mais comment Dieu va-t-il intervenir? Ça fait un an, deux ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans que je prie pour la même chose. Et cela n'est pas encore arrivé. Est-ce que Dieu m'a oublié? Où est-il Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Mais Dieu a parfois un moment particulier pour répondre, parce qu'il connaît parfaitement notre histoire, il connaît toute notre vie. Là, il savait que cet homme était malade depuis 38 ans, et par hasard, il passe par là et le regarde. Il connaissait que cet homme était malade depuis 38 ans. Nos histoires de vie, de cœur spirituel, de souffrance physique ne sont pas méconnues de Dieu. Dieu connaît nos problèmes, nos maladies, mais il veut solliciter notre foi. Et en fait, il prend le temps d'écouter cet homme, d'écouter ce qu'il vit. Il est à l'écoute de nos besoins et nous devons croire de tout notre cœur que Dieu est puissant pour guérir. Jésus veut guérir et Jésus accomplit ce qu'il dit. Sa parole est certaine lorsqu'il dit « Lève-toi », lui dit Jésus, « prends ton lit et marche ». Je ne sais pas exactement quelle est la part de l'homme, de sa foi et quelle a été la part de Dieu si tout d'un coup il a été, je ne sais pas si on peut dire ça, guéri, énergisé, tous ces muscles, n'est-ce pas, estropiés, ont été guéris d'un seul coup. Cet homme, il a eu un ressort, il s'est levé. Il a cru, certainement, à la parole de Jésus, alors qu'il ne le connaissait même pas. Parfois, Dieu nous demande d'exercer notre foi alors qu'on est au bout de soi-même. C'est parfois quand on est dans le plus grand désespoir, où on désespère complètement de soi-même, où on a tout essayé, que Jésus intervient. Et je dirais que cet aspect de la foi, c'est de croire malgré tout et jusqu'au bout. Croire malgré tout et jusqu'au bout. Dieu nous connaît, il connaît nos peines. Peut-être veut-il guérir? Peut-être va-t-il nous donner la force d'accepter nos souffrances, nos maladies, nos peines, nos combats, nos impasses spirituelles. Mais il y a une chose certaine, c'est que Jésus délivre. Il est le libérateur. Ça a été chanté ce matin. Jésus brise les chaînes. Peut-être êtes-vous désespéré d'une situation intérieure, personnelle. Mais croyez jusqu'au bout, parce que Dieu ne désespère pas, lui. En son temps, il passera. Il vous visitera, il vous guérira. Un autre miracle que Jésus a fait, on est au quatrième maintenant miracle, assez rapide, n'est-ce pas, de visiter les miracles de Jésus en si peu de temps. le miracle de la multiplication des pains. Alors il est écrit, chapitre 6 et verset 2, une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Ah, les gens suivaient Jésus parce qu'ils voient des miracles. Alors Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Alors la Pâque, la fête des Juifs était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour ces gens, pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Qu'est-ce qu'il allait faire ? Mais il allait prendre juste quelques pains, quelques poissons qu'un garçon avait, les multiplier, les distribuer au travers de ses disciples et puis nourrir toute cette foule. Cette foule immense d'hommes, de femmes et d'enfants. Nous avons aussi un besoin quotidien qui est la nourriture. Vous allez me dire, oui, mais vous savez, ce n'est pas tout le monde dans ce monde qui peut manger tous les jours à sa faim. Il y a des chrétiens persécutés dans ce monde qui sont vraiment rationnés au strict minimum et qui souffrent de faim. Mais là, Jésus voit cette foule. Et il va être glorifié. Il veut se faire reconnaître comme le Messie. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et dans l'Ancien Testament, le prophète qui devait venir dans le monde, c'est le Messie. C'est le Christ. Le but du miracle de Jésus, c'est de se faire connaître comme étant le Messie. Et savez-vous quoi? Nous ne vivons pas ce que nous devrions vivre et voir nos vies comblées de nourriture quotidienne. Certainement matériel, mais l'application ici, c'est la nourriture spirituelle, parce que nous ne connaissons pas Jésus comme étant le Messie, le Fils de Dieu. Apprenons, mes chers amis, à connaître Jésus-Christ. Est-ce que vous le connaissez ce matin? Est-ce qu'il nourrit votre âme? Est-ce qu'il vous fait du bien? Est-ce qu'il s'approche de vous? Est-ce qu'il fait des miracles dans votre vie? Oh, peut-être que vous n'avez rien, mais le peu que vous avez, Dieu veut le multiplier pour nourrir les autres. Dieu veut se glorifier dans votre vie. Multiplier ce qui est faible, ce qui est rien à nos yeux, afin de que lui ait toute la gloire, même malgré nos faiblesses, le peu, le Seigneur peut le multiplier, le glorifier. Il y a combien de missionnaires qui sont partis dans le monde, dans des endroits reculés, contre l'avis de leurs médecins. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Il faut vraiment consulter Dieu, être sûr. C'est lui le grand médecin. Le grand-père de Louis est parti au Guatemala. Il a fondé 200 églises. Le médecin lui avait dit, « Monsieur, restez chez vous. Vous allez aller dans les montagnes, etc. Vous ne pouvez pas, vu votre maladie. » Et il est parti par la foi. Et toute sa vie, il a glorifié Dieu. Parce que Dieu s'est glorifié dans ses faiblesses. Vous savez, Dieu fait des miracles. Parfois, il nous utilise, justement, au moment où on ne pense pas. Parce qu'au moins, il est sûr que toute la gloire lui revienne. Parce qu'on veut toujours entacher l'œuvre de Dieu de ses propres mains. On ne le laisse pas agir comme on devrait le laisser agir, alors que lui seul veut tout faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, afin que lui donne toute la gloire. C'est incroyable la volonté de l'homme. Comment l'homme veut contrôler les situations et les choses jusqu'à ce qu'il peut-être désespère assez pour que Dieu intervienne. J'ai un ami qui est aujourd'hui médecin, qui me racontait, jeune, qu'il allait à Biarritz et qui... nager facilement dans l'Atlantique et un jour il y a une lame de fond qu'il a pris et puis il a réalisé qu'il allait se noyer. Alors il a crié au sauveteur qui est venu le chercher, mais il a dit, mais si j'avais pas crié, j'aurais péri. Si vous ne criez pas vers Dieu, vous allez périr, parce que Dieu veut intervenir dans votre vie. Alors Jésus opère des miracles, il teste la foi des disciples, hein. Il dit à Philippe, ayant levé les yeux, où achèterons-nous des pains? Il savait très bien que personne n'allait acheter quoi que ce soit. Il n'y avait pas assez d'argent de façon pour acheter le pain pour tout ce monde. Et parfois, Dieu nous met au pied, je dirais à ses pieds, au pied de la croix. Il nous brise afin de nous apprendre que lui peut tout faire. C'est son œuvre, afin que toute la gloire lui revienne. Il sait à l'avance comment intervenir dans nos vies. Il connaissait le besoin. Ses foules venaient à lui. Et puis il prend soin des brebis, rassasie la foule. Jésus est le bon berger. Il pourvoit abondamment aux besoins des hommes. Maintenant, il y a un danger pour ces hommes qui l'ont suivi. Il y a un double aspect. Il y a ceux qui ont cru en Jésus comme étant le Fils de Dieu, mais ceux qui le suivaient par intérêt. Nous devons éviter de croire par intérêt, mais de nous réfugier toujours en Jésus-Christ et de croire parce qu'il est celui qui peut tout et pourvoir à tous nos besoins matériels. Juste après, Jésus marche sur les eaux, chapitre 6, versets 15 à 21. C'est le cinquième miracle, il y en a sept. En fait, Jésus est en train de prier. Dieu le Père, il se retire de nouveau sur la montagne, lui seul. Et quand le soir fut venu, verset 16, ses disciples descendirent au bord de la mer, étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. On a déjà vu ça en détail. Et c'est Jésus qui leur demande de passer de l'autre bord. Ça se situe au nord de la mer de Galilée. Alors ils vont de l'ouest en est, mais dans le nord de la mer. Et là, il y a une tempête terrible. Et ils ont peur. Pourtant, ils sont dans la volonté de Dieu. C'est Jésus lui-même qui leur a dit d'aller de l'autre bord. Et dans la volonté de Dieu, ils sont éprouvés, ils sont testés, et ils réalisent leur faiblesse face à la tempête, et ils ont peur. Peur de périr, peur de ne pas arriver de l'autre côté, peur de ne pas accomplir la volonté de Jésus. Et Pierre particulièrement est testé, vous savez, il met son pied hors de la barque, il marche sur les eaux à la rencontre de Jésus. Et il coule parce que ses yeux ne restent pas fixés sur Jésus. C'est la même chose pour nous, sur les eaux de ce monde difficile, si nous ne gardons pas les yeux fixés sur Jésus, le monde va nous engloutir. Mais les disciples, quand ils ont vu ce miracle et que Jésus est entré, et monté dans la barque, apaisé la tempête, après avoir marché sur les eaux, ils se sont inclinés, ils l'ont adoré. Parfois, c'est dans les moments les plus inquiétants, là où la crainte nous submerge, là où nous avons le plus peur, que Jésus intervienne de façon extraordinaire et complètement inattendue. Jésus apparaît dans nos vies et on est étonné de voir comment il arrive. Il marche sur les eaux. Celui qui a créé les cieux et la terre, c'est celui qui est souverain et maître et qui a toute autorité sur les lois physiques. Il a marché sur les eaux. Et il nous invite aussi à marcher sur les eaux, à l'exemple de Pierre. Mais parfois, on trouve ça bien difficile. Les disciples ont dû apprendre une chose, que suivre le maître, croire, n'enlève pas les difficultés. Notre vie avec le Seigneur n'enlève pas les difficultés. Même j'ai remarqué parfois qu'après ma conversion, j'ai trouvé qu'il y avait encore plus de difficultés. La persécution, le rejet, le mépris des autres lorsqu'on témoigne de Jésus, de sa foi. Des difficultés nouvelles arrivent, mais c'est le bon chemin, c'est le chemin de la foi. Croire n'enlève pas les difficultés. Un autre aspect qu'on va voir, on en a deux autres à regarder. C'est une histoire extraordinaire. C'est le sixième miracle que l'on trouve dans l'évangile de Jean. C'est l'histoire de l'aveugle-né. Et c'est tout un chapitre, n'est-ce pas, qui est mentionné au sujet de cette histoire. Jean chapitre 9, verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ? Jean chapitre 9, verset 3. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est ainsi, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Donc, qui signifie envoyer, il y a là, se lava et s'en retourna voyant clair. Quelle histoire merveilleuse. Moi, je trouve que c'est un des plus beaux miracles de Jésus. Il applique la boue sur les yeux d'un aveugle qui n'a jamais vu. C'est un aveugle né. Imaginez. Après avoir déclaré, je suis la lumière du monde, il va donner la vue à celui qui n'a jamais vu. Et c'est la même chose lorsqu'on s'approche de Jésus, qui est la lumière du monde, on sort des ténèbres. La Bible dit que l'évangile nous fait passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu. Et tout d'un coup, on voit Jésus. Et les Juifs qui croyaient voir, Jésus leur dit, non, vous ne voyez pas, vous êtes aveugles. Vous croyez voir, c'est pour ça que vous êtes encore dans les ténèbres. Reconnaissons que nous aussi, parfois, nous avons des coins de ténèbres dans notre vie. C'est pour ça qu'on a tellement besoin de se rapprocher de ce que disait le psalmiste, par ta lumière, je vois ta lumière, parce que nous avons besoin de toute la lumière de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alors il applique de la boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit d'aller se laver au réservoir de Siloé. Tout cela pour démontrer sa divinité. Celui qui déclare, je suis la lumière du monde et le Fils de Dieu, il peut donner la vue, mais il peut donner aussi, bien sûr, la vue spirituelle à ceux qui sont aveuglés. Nous étions de ce nombre, nous dit la Bible. Nous étions errants et égarés dans ce monde, aveuglés sous la puissance de Satan. Mais Dieu prouve son amour envers nous, parce que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous, nous dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains. Et cet homme-là a dû avoir la foi sans voir encore physiquement. Et c'est la même chose pour nous. Dieu nous demande quelque chose. Va, lève-toi au réservoir de Siloé. Cet homme-là avait tout le temps, en pensant à ce que cet homme lui avait dit, Jésus, il ne savait même pas que c'était Jésus. Après, il témoigne parce qu'il sait que c'est Jésus. Il ne sait pas que c'est Jésus. Il va au réservoir, on ne sait pas trop comment, parce qu'il est aveugle, peut-être l'a-t-on accompagné. Et puis, il fait littéralement ce que Jésus lui a demandé. Il se lave et il voit. Chose qu'il n'a jamais vue de sa vie. Tout devient clair pour lui. Les choses qu'il a entendues de ses oreilles, maintenant il les voit de ses yeux. C'est extraordinaire. C'est un miracle extraordinaire. Il témoigne auprès du Sanhédrin, auprès des Juifs qui ne croient pas encore. Et puis finalement, il rencontre Jésus au verset 35. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Et l'ayant chassé, c'était les Juifs. Vous savez, quand on se convertit, on commence à être persécuté quelque part. Il lui dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Il ne savait pas qui était Jésus, celui qui l'avait guéri. « Tu l'as vu, lui dit Jésus. Tu l'as vu. » Il ne l'avait pas vu encore. Maintenant, il le voit avec ses yeux. Il l'a guéri et maintenant, il le voit, Jésus. Il lui dit, « Je crois, Seigneur. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Il l'adora. Parfois, le Seigneur nous demande de croire sans voir encore. Pendant que cet homme allait au puits de Siloé, il aurait pu réfléchir et commencer à douter. Dire, oh, mais qu'est-ce que c'est cette histoire de mettre de la salive, de la boue sur mes yeux pour que je sois guéri? Mais c'est une bêtise là, je ne vais pas faire cela. Alors, il n'a pas raisonné, il a cru, il a soumis son raisonnement à la parole de Jésus-Christ. C'est merveilleux cela, lorsque notre volonté, notre intelligence se soumet à la parole de Dieu. D'ailleurs, vous savez, devant Dieu, qui sommes-nous? Ce Dieu éternel, tout-puissant. Nous osons raisonner devant lui. Bien sûr que Dieu nous a donné une raison, une intelligence, une volonté, des émotions, mais est-ce que nous sommes prêts à les soumettre à Jésus-Christ et à croire à sa parole, et puis à faire, à commencer de faire ce qu'il nous demande de faire, et puis avoir la guérison. Et cet homme, parce qu'il a vu, moi j'aime ce passage, c'est extraordinaire, Jésus a fait un miracle pour lui rendre la vue, et puis pour voir Jésus-Christ de ses yeux. C'est ce que Dieu fait parfois, il tombe les écailles de nos yeux, puis on voit, enfin c'est ce qu'il fait quand on se convertit, les écailles de nos yeux tombent et là on voit Jésus. On ne le voit pas réellement, mais en esprit, et on l'adore, on a un chant nouveau dans le cœur, et on l'adore. C'est merveilleux, croire, faire un premier pas sans voir encore, parce qu'on va voir. Le dernier miracle de Jésus est celui qui accélère sa mort. En donnant la vie à Lazare, il s'achemine d'autant plus vite vers la croix. Son heure est bientôt arrivée. Et pour Jésus de ressusciter Lazare, c'était enclencher sa mort et les Juifs qui le recherchaient pour le faire condamner. En fait, ici, si vous lisez Jean chapitre 11, on va terminer avec cela. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Béthanie était située proche de Jérusalem, 3-4 kilomètres. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur. Alors ça se fait un peu plus tard dans l'Évangile, et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » En fait, elles ont vu des miracles, ces femmes-là. Et elles s'attendent à ce que Jésus vienne voir Lazare et puis le guérisse. Mais Jésus, ayant entendu cela, il reste là, sur place, pendant 2 jours. Ça prenait 1 jour pour aller à Béthanie, de là où il était. Cette maladie, il dit, n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Jésus laisse son ami mourir. Vous savez, parfois on voudrait que Dieu intervienne d'une certaine façon, mais Jésus intervient, et quand il intervient, c'est pour glorifier Dieu le Père et se glorifier. Nous ne pouvons pas contrôler les miracles de Jésus, mais Jésus intervient pour se glorifier lui seul. Alors il explique à ses disciples que Lazare est vraiment mort. Et puis il rencontre Marthe, il rencontre Marie. Et sur ce chemin-là, il les prépare à ce miracle extraordinaire qui va être la résurrection de leur frère. Jésus dit, verset 25, à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Vous savez, Jésus fait appel à la foi. Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui doit venir dans le monde. » En fait, les pharisiens et les juifs croyaient, en général, les juifs croyaient à la résurrection des morts. Et l'espérance de Marthe était que Lazare un jour ressuscite. Mais Jésus déclare, « Je suis la résurrection et la vie. » Et il le prouve face au tombeau, face à Lazare qui est là depuis 4 jours. Il dit, « Lazare, sors !» Et Lazare sort. Comme a dit quelqu'un, je l'ai déjà dit, excusez-moi, s'il n'avait pas dit Lazare, tous les morts auraient ressuscité, tellement la puissance de la parole de Christ est extraordinaire. Il ressuscite Lazare, il manifeste sa gloire. En fait, nous aussi, nous faisons face à la tristesse de la mort ou de la maladie. Lazare était mort, un être cher de Dieu. Savez-vous que Dieu connaît le jour de notre mort? Et Dieu compatit avec la tristesse d'une séparation de la mort. D'ailleurs, il a vaincu celui qui a la puissance de la mort à la croix en ressuscitant des morts. En fait, face à la mort, l'homme a besoin de savoir où il va après la mort. Je connais quelqu'un de proche qui est âgé et qui n'est pas prêt à mourir et qui, à l'heure actuelle, a peur de mourir, a peur de souffrir, voyant d'autres plus jeunes, même que son âge très avancé déjà, être malade ou mourir. La peur de mourir. L'homme n'est prêt à vivre que lorsqu'il est prêt à mourir, a dit Jung, un disciple de Freud. C'est le grand problème de la mort. Mais le grand problème de la mort, il est résolu par l'Évangile, par Jésus qui a dit « Je suis la résurrection et la vie ». C'est lui qui est la vie, il donne la vie, puis il ressuscite des morts. Il donne la vie spirituelle et puis il ressuscite les morts physiquement. Jésus est la garantie de notre résurrection. Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus, tenez-vous bien, à la promesse, à l'assurance, en Jean chapitre 11, de l'exaucement de ses prières. « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Il savait, avant de demander à Lazare de ressusciter par cette parole, Lazare sort, que son père l'avait exaucé. En fait, Marthe et Marie ont été acheminées vers un pas de la foi, de croire pour voir. Alors, en conclusion, mes bien-aimés, merci d'avoir écouté patiemment. Jésus fait des miracles pour se révéler aux hommes. Jésus veut encore faire des miracles. Et nous devons apprendre aussi à l'exemple de ces miracles, d'exercer notre foi. Et je vous le résume pour terminer. À l'exemple de Marie pour les noces de Cana et de ses serviteurs, on doit croire et puis voir. À l'exemple de l'officier qui a cru à la guérison de son fils, on doit croire sans voir. À l'exemple du paralytique, on doit croire malgré tout, croire jusqu'au bout. À l'exemple de la foule qui suivait Jésus, on ne doit pas croire par intérêt. À l'exemple des disciples dans la barque, au milieu de la tempête, c'est de croire malgré les difficultés. À l'exemple de l'aveugle-né, c'est de croire sans voir encore. Dieu va le faire. À l'exemple du disciple de Marthe et de Marie, c'est de croire pour voir. Que le Seigneur nous aide ce matin et dans nos vies, en terminant cette année, à croire de tout notre cœur et à ne pas douter de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qui donne la vie, celui qui peut tout et absolument tout faire dans nos vies. Prions, s'il vous plaît. Ô notre Père céleste, merci de nous avoir exhortés ce matin encore à croire. Puisses-tu, Père, pardonner notre incrédulité, notre manque de foi. Peut-être y a-t-il quelqu'un ici ce matin qui dit « Mais je veux croire, priez pour moi, je voudrais avoir la foi, avoir le salut en Jésus-Christ, je veux connaître Jésus-Christ, je veux savoir qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mon Sauveur. » Nous ne le faisons pas chaque dimanche, mais peut-être y a-t-il quelqu'un ici ce matin qui dit « Priez pour moi ». Alors je voudrais vous donner cette occasion de le manifester, peut-être publiquement, si vous me permettez, de lever pendant que nous sommes dans un état de, une attitude de recueillement, de lever la main et de dire par ce geste « Priez pour moi ». Moi aussi, je veux connaître Jésus-Christ, je veux croire. Je veux croire, je veux qu'il se révèle à moi. J'ai une petite foi, je ne sais pas trop, mais je voudrais croire, priez pour moi. Pourriez-vous lever la main un instant et dire ceci? Priez pour moi, je veux croire en Jésus-Christ. Oui, je la vois, y a-t-il quelqu'un d'autre? Ce message est pour vous, mais un jour je me suis levé dans une réunion, j'ai cru, et ça fait plus de 30 ans, et Dieu m'a jamais, 37 ans, si vous voulez savoir, et Dieu m'a jamais déçu. Jamais. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre ici ce matin qui dit, moi aussi, je veux croire. Merci Seigneur Jésus de ce que tu es le Fils de Dieu et nous te proclamons roi dans notre vie, Seigneur et Seigneur des Seigneurs, Sauveur. Gloire et louange te soient données, Jésus. À toi la gloire au siècle des siècles. Nous t'aimons, Seigneur. Nous te bénissons. Amen.